chaleur tropicale.
Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie pas.
Le soir, c'est couleur tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Est-ce que vous avez commencé par éveiller ma curiosité?
Couleur tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Talk show.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto, Mathias Taylor, Swell Kedir. Bonne arrivée la famille, bienvenue pour le talk show de fin de semaine. Toi-même tu connais, entre musique et génération consciente, nous allons parler fort, sans détour. On va vraiment faire du sale et réhabiliter ceux dont on insulte la mémoire depuis trop longtemps. Les millions d'Africains déportés, devenus esclaves sur les terres du dit Nouveau Monde et des Caraïbes et de la péninsule arabique également. Ils sont insultés par une frange de leurs descendants et c'est gênant. Dans la séquence Génération Consciente avec Dolores Bakela et Lova Rinel, le débat portera sur l'expression nègre de maison. Ça va vraiment être très chaud. En ce jour, nous recevons l'un de ceux qui forgent le nouveau rap game. Booba ne s'y est pas trompé en le signant sur son label. D'ailleurs, il est né juste à côté de RFI, dans la ville voisine, à Clamart. Et c'est donc en voisin que SDM fait ses premières couleurs tropicales. Dans un instant, il répondra à nos questions. SDM,
ouais.
La vie de rêve. Écoute ça.
Pour arriver ici, j'ai fait des kilomètres. Personne pour me freiner, poto, je vais tous les wetter. Maintenant il faut que tu payes, t'as pris des kilomètres. Genre le 9 et j'te plume, moi gentil alouette. À 3 dans la wagon, on va chercher de gosses. Ce soir c'est viré sur Paname, on improvise une fête. Et sur une date de go, j'ai entendu des ragots. Comme quoi c'est une donneuse de go qui vient, je vais tous les wetter. Des gamos, une villa, des trophées comme Zidane, moi tout ça je veux. Arrive de Mali au village, est-ce que tu l'es tous, c'est bon, je vois le feu. Travailler pour avoir cette villa, vendre la mort, toi tu fais, mais maman le vima. Travailler pour avoir cette villa, tout ce que je prends ici, je l'emporterai pas au final. Ta fille de rêve comme Tony Montana. Ta fille de rêve comme Tony Montana. Sans l'oseille, je vois la vie encryptée comme canal. Ta fille de rêve comme Tony Montana. Colle dans mon verre, mon bébé m'en remet. Mon corazon a mal, l'argent mon seul remède. J'ai encore fini mon verre, bébé, faut m'en remettre. La villa vert qui bat, sous pina colada. Jet privé va vers me dar en passant par le Panama. Million en euros, avec ça j'serai moins malheureux. Malheureux, j'fais des erreurs pour les Yankees, j'ai celle qui vaut. Des gamos, une villa, des trophées comme Zidane, moi tout ça je veux. Arrivé comme Mali au village, est-ce que tu l'es tous, c'est bon, j'en vois le feu. Travailler pour avoir cette villa, vendre la mort, toi tu fais, mais maman le vit mal.
La vie de rêve, premier single extrait de l'album Ocho. L'album est sorti aujourd'hui, en ce vendredi 9 avril, passez le message. SDM, bonne yes. arrivée.
Merci.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Je me disais, en préparant l'émission, je suis sûr qu'aujourd'hui, il a la pression parce que l'album sort. Mmh. Ou alors, est-ce que tu es confiant parce que bah, le public t'a déjà adopté ?
Je suis plutôt détendu, ça va, dans un bon mood. J'ai hâte de voir les retours du public et voilà.
Confiant, serein.
Ouais, ça va.
Dans le clip, le jeune que l'on voit, ouais. c'est qui dans la BM complètement défoncé ?
C'est Yanis, et on peut dire un petit cousin à moi qui a accepté de venir jouer le petit SDM dans le clip.
Et toi, t'as accepté de venir jouer le grand SDM dans Couleur Tropicale.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses.
Et c'est la voix de Manu Dibango qui te le dit.
D'accord.
Notre grand, notre regretté. Merci beaucoup, merci pour lui. Justement, SDM, dans La Vie de Rêve, tu dis La Vie de Rêve. Comme Tony Montana, alors référence au film Scarface, ouais. Tony Montana joué par Al Pacino. Et plus loin, tu lances des trophées comme Zidane, moi tout ça je veux. Et puis tu finis en disant, tout ce que je prends ici, je ne l'emporterai pas au final. Et alors ça c'est la seule conclusion qui vaille, hein, de toute façon dans le truc. Alors d'un côté, il y a l'illégalité avec Tony Montana. De l'autre, il y a le talent, le travail, la persévérance et tout cela. Quel est finalement le meilleur exemple pour toi qu'il faut donner et qui est le tien?
c'est les trophées, tu vois.
Ouais.
Juste la vie de rêve comme Tony Montana, c'était juste ce clin d'œil.
L'argent, les voitures,
voilà.
Les femmes.
Voilà. Ouais. Mais sinon, ouais, aujourd'hui, c'est les trophées comme Zidane hein, qui me font rêver. Donc,
qui te font rêver, qui te font travailler, puisque tu le dis et
bien sûr.
En parles.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Quelles sont justement, toi, dans ta vie, les personnalités, femmes et hommes, qui t'inspirent, mais également dans la musique? Et qui, dans ta vie même, t'ont inspiré, qui sont en dehors de la musique également?
Ouais, j'ai jamais eu de gens qui m'ont donné envie de faire de la musique. C'est vraiment venu comme ça, tu vois. C'est moi, c'est mes potes qui m'ont donné envie de faire de la musique, tu vois. C'est des artistes comme Beyoncé, tu sais, j'ai regardé un reportage sur elle où...
T'as vu, c'est impressionnant l'histoire de Destiny jusqu'à... Ouais.
C'est fort, tu vois, même la patience qu'elle a eue, enfin... 26 Grammys, là, il n'y a pas longtemps. Ça fait rêver.
Ça fait rêver, hein.
Ça fait rêver.
La vie de rêve, c'est ça. Et comme tu l'as dit très justement, c'est beaucoup de travail. Lorsque Booba t'a signé, tu as déclaré que tu n'aurais jamais imaginé ça dans ta vie. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Parce que toi, Clamart, lui, Boulogne.
Ouais.
Et pas la même génération.
Ouais, pas du tout, ouais, fort. Ouais, moi et Booba, on s'est rencontrés via un de mes deux managers qui fait partie de son entourage. Et c'est aussi mon oncle, tu vois. Donc du coup, il lui a parlé de moi en mode, il y a mon petit neveu qui fait du son, écoute,
quoi. Ouais.
Dis-moi ce que t'en penses. Et il a directement kiffé le truc. On s'est rencontrés, le feeling, il est passé directement.
Parce qu'il n'est pas facile, hein, Booba. Il a une oreille affûtée et il prend pas de gants pour dire si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas.
Quand déjà, il me rappelle et il me dit, ouais, Booba, il a kiffé ton son et il veut te voir. Ah ouais, quand même.
Ouais, quand même.
Ah, quand même, ouais.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ça y est, je suis dans l'histoire et il est obligé de me signer, ou est-ce que tu dis, ce ne sera peut-être qu'une rencontre?
Je me dis que ce sera peut-être qu'une rencontre. D'accord. Parce qu'on est beaucoup dans l'humain quand même. Je suis quelqu'un qui arrive à garder la tête froide. Jusqu'à aujourd'hui, même où tu me vois venir là comme ça avec toi, je suis quelqu'un qui, tu vois, je me dis que rien n'est fait encore. Donc du coup, quand je veux voir Booba, je me dis que... Ça va d'abord être une discussion. Et après, le feeling qui passe, je me dis, j'ai qu'une envie maintenant, c'est signer avec Booba.
La question portait sur, les questions et la discussion portaient sur quoi entre Booba et toi, la première fois? Je te fais pas une interview première fois.
Non, t'inquiète. Non, je suis arrivé, ça s'est bien passé, on s'est checké. La chose qu'il m'a dit, c'est écoute, j'ai vu ton travail. T'as déjà tout. Moi, tout ce que je veux faire, c'est pousser le truc.
Franchement, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire
à
quelqu'un qui débute sa
carrière. Franchement, ouais, fort. Ouais. Un mec, surtout, où je faisais même pas 100 000 vues sur YouTube, tu vois.
Ouais.
Quand il écoute même des sons de moi, il y en avait que 4 ou 5, tu vois, un truc où en vrai, il a vu ce truc-là, où les gens, des fois, passaient devant et...
Ouais. Et aujourd'hui, tu fais combien de vues?
Aujourd'hui, c'est des millions.
Lâche, voilà, mais lâche, mon gars.
Ouais, aujourd'hui, ouais.
Et alors, je voudrais te faire écouter quelqu'un, une tête couronnée de nos musiques afro, avec son groupe, qui, s'il était encore de ce monde, aurait probablement lui aussi fait des millions de vues. On écoute et on en parle juste après, tu vas comprendre pourquoi.
C'est parti. J'ai compris.
Bon, tu as compris, donc je ne te poserai pas la question. Sais-tu pourquoi je te fais écouter Pépé Calé et son groupe L'Empire Bakuba, Pépé Calé, paix à son âme. Pourquoi je te fais écouter ce titre-là, Merci Maman, cet album?
Je crois que tu me fais écouter ça parce que, de un, je suis congolais.
Ouais.
Ou peut-être son film La vie est belle.
Ah, aussi, effectivement.
Peut-être la vie de rêve, la vie est belle.
Bah moi, c'était beaucoup plus précis que ça. Moi, j'ai pensé à ton papa.
D'accord, le grand Bob Massois.
Exactement, Bob Massois, qui était l'un de nos grands producteurs, qui a beaucoup produit d'artistes congolais, mais pas seulement. Il a produit également Petit Pays du Cameroun.
Ouais.
Et il nous a quittés en 2017. Et c'est le producteur, justement, de cet album-là.
Ouais.
Justement, Ask avec lui.
voilà, t'as production,
vu Et ben voilà. Alors, j'explique à nos auditeurs, parce qu'on est également en Facebook Live, mais si vous n'avez pas l'image, donc la pochette est là sur les écrans de couleur tropicale et voilà, SDM a vu enfin le nom de la boîte de production de son papa. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec ton père de ton envie de musique? Était-il d'accord? A-t-il vu tes débuts de carrière?
Jamais. Avant, c'était quelque chose vraiment que je faisais comme un loisir et comme un truc. Et je savais que la musique que je faisais n'allait pas forcément lui parler.
Ouais.
Tu vois, c'était la musique du Tiek. C'était... Par exemple, aujourd'hui, quand je fais écouter mon album à maman, elle aime bien Cello, elle aime bien La Vie de Rêve.
Ouais.
Il y a beaucoup de musique qui lui parle, tu vois, à cette époque-là. Je faisais pas du son qui parlait à mon père, donc j'ai jamais dit à mon père que j'étais un passionné de musique. Il a jamais su que je kiffais ça, sauf quand il y avait, tu sais, des petites fêtes, des petites ambiances et je lâchais deux, trois petits pas de danse sur du coffee.
Ouais.
Tu vois, ouais. Mais sinon, il a jamais su vraiment que son fils, il aurait pu être musicien.
Ouais. Est-ce que chez toi, la façon dont tu nous le dis, est-ce que l'on doit entendre et lire un peu de regret? Quand même, parce qu'il aurait été fier de toi.
Ben justement, vu que je lui en ai jamais parlé des trucs, je sais pas comment il aurait réagi. Mais
le succès lui aurait plu, de toute façon.
Ouais, je pense.
C'était sa passion, la musique.
Ouais, grave, matin, midi, soir.
Musique. Alors, moi je trouve que dans tes chansons, il y a quand même le Congo. Même si cette terre-là, c'est ta terre d'origine, puisque comme tu le dis, tu es né en France, mais le Congo est là et est en toi. La Vie de Rêve, très bien. Il y a un duo avec Fally Ipupa, on va l'écouter tout à l'heure. Mais il y a aussi cette chanson. Il y a un petit quelque chose de Congo.
Ouais.
Petite guitare, peut-être à un moment donné. Écoute ça.
Écoute l'instrument qui donne la mélodie. Mon tempête fait danser Yakalé. Fait danser Yakalé, Yakalé, Yakalé. Tapet fait danser Yakalé, Yakalé, Yakalé. Tapet fait danser Yakalé, Yakalé. C'est sa mère qui pleure dans ses palais.
SDM,
ouais.
Me suis-je trompé ou y a-t-il quand même un peu de Congo musical dans Yakalélo? Et que dis-tu dans cette chanson? Quel est le thème?
En gros, SDM, déjà, faut savoir que comment il travaille, il rentre en studio, l'instru elle tourne. Et je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. Ça veut dire que, comme beaucoup de Congolais ont cru que je disais Yakalélo, c'est en lingala, ça veut dire viens.
Mais oui.
Mais en fait, c'est juste que, je sais pas, fallait trouver un truc avec du style et j'ai pensé à cette musique à l'ancienne qui faisait Yakalélo.
Voilà.
Voilà, c'est juste la ref sur ce son et, donc là, même quand t'écoutes le refrain, les vibes qui font Yakalélo, Yakalélo. Tu vois, ça vient de chez nous.
Tu sais, depuis 30 ans au moins, je n'arrête pas de dire lorsque je suis en radio, moi l'une de mes langues préférées dans le monde, parmi toutes les langues de l'humanité, c'est le lingala. Pour moi, c'est une langue, même lorsque les gens parlent, tu as le sentiment que les gens chantent. C'est ça la réalité. Et je n'arrête pas, mais c'est vrai, mais c'est vrai.
Ouais,
est-ce que toi, tu pourrais nous offrir des chansons en lingala intégrale?
Je te dirais pas non. Parce que
faut-il que j'en parle à ton tonton pour que ton tonton te pousse?
Non, mais je te dirais pas non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est tellement de belles langues que ça pourrait me tenter un jour. Et ouais, pourquoi pas, je verrai avec le temps.
L'album Ocho est sorti aujourd'hui, alors la tradition veut que l'on réalise un medley avec quelques titres de l'album, c'est ce que nous avons fait.
Yes.
Alors tu peux réagir pendant le medley, ou après, ou pendant et après.
Okay.
On écoute.
Moi je préfère un long chargeur.
Écoute ça.
J'suis un prof de judo. Une calache, ça te fait danser même si tu sais faire les gens. Comme moi dans le Covid de merde. 25 ans, on veut mettre en quarantaine. Un chargeur camembert ou longue capacité, c'est mieux qu'un vieux prof de karaté. Dans mon gang, on agit, on est peu bavard, on n'est pas avare. Moi quand je donne, j'attends zéro retour. Les parents, ils me foutent le cafard, et je peux plus me les voir. En doudoune, y'a mes gars, va dans le four. T'es chaud, dis-nous direct. On sait se bagarrer, on sait tirer. J'ai grandi ici, j'ai tout appris ici, mais pourtant l'objectif c'est s'en tirer. Nous on a fait le sang dans la zone. Et ici gros y'a rien d'intéressant. L'impression que je suis seul, que le gun a caressé. Pourtant tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait sans raison. On reconnaît la meuf frère, quand on sur le cello. Ram, bam, bam, bam. C'est le bruit de la meilleure, c'est Barriana. Sorti de peau, je suis dans l'Ori l'Allemand. Frappe Marocco. J'ai traîné toute ma vie, aujourd'hui moi je vois ailleurs. Bosse des billets comme les vannes dans The Wire. Si je te fais, c'est pas juste comme ça.
C'est, ouais, c'est la mélo.
Là c'est mélodie à fond. Ça.
Game over. Avec moi et pensez à se mettre au vert.
Appelez les pimpons. Appelez le 17, de toute façon on les baisse. Appelez les pimpons.
J'ai une arme à feu sous la nora. Appelez les pimpons. Attention, c'est ma bouche qui annonce ta mort.
Appelez les pimpons.
C'est la
47 qui m'a l'air. Lélo, lélo, lélo.
Un peu de baisse, mais je suis dans la tour. Toujours sans moi, vite ça bougera pas. J'ai des frères en atoll, des frères qui reposent. En plus, je repense à tout ça, je suis dans le bas. Tout nickel, j'ai promis. Tous les fois, j'ai mis distance. Tous ces zéro Tony. Les vrais de la rue, ils me connaissent. J'ai chanté la tête, j'ai chanté la zone. Maman m'a pas vu à plusieurs reprises.
Ocho! L'album est sorti aujourd'hui, en ce vendredi 9 avril, le premier album donc dans la discographie de SDM. C'est pas sa première prod, toi-même tu connais. SDM, question rituelle, est-ce un bon résumé de l'album Ocho?
Parfait, ça me va, ça résume bien l'album. Un peu de mélodie, un peu de rap. Voilà, autre chose.
Bon. On a terminé le medley avec le titre Le bruit des applaudissements. Tu y es en feat avec PLK. Alors, on n'a pas oublié évidemment le tube Jack Fuego qui, ça va devenir un classique. Hein.
Ouais, j'espère.
Ça peut devenir un classique. Ouais. Hein. PLK, c'est vraiment un de tes proches. Vous avez grandi ensemble. C'est celui dont tu te sens dans la musique aujourd'hui le plus proche.
Le plus proche, ouais, bien sûr. C'est depuis qu'on est ado, on est de bons potos. Il m'a toujours poussé à faire de la musique. Il y a une époque où j'ai voulu arrêter et il a fait partie de ces gens-là qui m'ont toujours boosté, qui m'ont toujours, partout où il allait, il voulait m'aranimer, il parlait de moi à tout le monde et voilà, pour moi, c'était normal de l'inviter sur mon premier projet.
Pourquoi voulais-tu arrêter?
J'ai eu cette petite phase où, à un moment, tu sors un clip, tu donnes tout dedans, il sort et... Et pour toi, t'estimes qu'il a pas le succès qu'il mérite, donc tu te dis, c'est peut-être pas fait pour moi. Et PLK, il a fait partie de ces gens qui m'ont dit d'arrêter de douter, frère.
Et de continuer à travailler.
Fort.
Bon. On a une petite frustration. Alors, il y a 16 plages sur l'album, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
On n'a pas écouté le titre avec Booba, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, le titre n'est pas disponible. Moi, je dis tout, hein, je raconte tout. Et sauf qu'au moment où on diffuse l'émission, eh ben, tout le monde aura écouté le titre, sauf nous. Donc, est-ce que tu comprends ma frustration, à quel point j'ai les nerfs? Ouais. Donc, c'est-à-dire que je sais pas, je vais envoyer un message à Booba, je vais lui dire, t'as vu, tu vois, ce sont les grands frères les plus mal considérés.
Non.
Bon, non, mais non, réponds pas, laisse tomber. Non, mais tu vois, voilà, non, bon, moi, tu sais, maintenant, je t'ai dit. On a ouvert le medley avec le titre Vandame. On a également entendu le titre Rihanna. Que représentent ces deux personnages, ces deux personnalités pour que t'aies donné leur nom à deux de tes titres?
Ouais. L'histoire se répète encore dans ma tête où quand j'arrive en studio, je réfléchis vraiment pas. Dès que moi, l'instru, ça match et j'écris dans ma tête. J'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire que je fais des rimes en nanananana. Et après, il y a ce rom pom pom pom. C'est le bruit de la meilleure, c'est pas Rihanna. C'est big up à Rihanna, quoi. Ouais. C'est voilà, quoi. C'est, ouais, ça sort comme ça, c'est naturel, vraiment.
Alors, moi, j'allais te poser la question. Comment travailles-tu? Ça fait deux fois que tu nous expliques la façon dont tu travailles. On pourrait essayer aussi de savoir comment travailler avec tes beatmakers, ceux qui produisent les sons. Et puis, je me dis, pendant que tu nous racontes ça, comment tu écris tes textes, t'es un petit peu comme les zookers des années 90.
Ah ouais.
Je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que les gars, ils avaient donc l'instru, le truc, ça tournait, mais ils disaient, ouais, bitala, katouné, po, bitala, bon. Là, je le fais en créole, tu vois. Et les mecs, en studio, et puis souvent, ils écrivaient leurs textes, certains, pas tous, hein, écrivaient, sauf Kassav, respect, écrivaient leurs textes en studio. Et c'est bien parce que c'est aussi ce qui fait l'urgence comme ça.
Ouais.
C'est ce qui fait la sève souvent et le succès d'un titre. Et c'est ce que toi, tu nous dis. Tu parles beaucoup d'armes dans tes titres.
Ouais.
Justement, dans Game Over, tu évoques ton... alors là, c'est pas tout à fait pareil, ton 9 mm pour régler tes histoires de love.
Ouais.
C'est-à-dire...
C'est pas histoire de love, c'est histoire de love. C'est un petit jeu de mots.
Oui, bah justement.
Histoire de love, en gros, c'est de l'argent et voilà, quoi.
On est là dans la fiction.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que toi...
Je sais pas, 50 Cent ou qui, je sais pas qui.
Ouais. Est-ce que tu rappelles toujours à ceux qui te suivent, les millions de gens qui te suivent, qui téléchargent, que tes chansons sont des fictions comme ce qu'on pourrait voir à
c'est
la
c'est des références de films,
voilà.
Tout,
mais ce sont des films. Ce que tu racontes sont des fictions, tu dis pas « faites ce que je vous dis dans mes chansons ».
Bien sûr.
C'est juste
bien
des films.
Ouais,
d'accord.
Bien sûr, c'est ça.
Comment est né le titre « Pimpon » Parce que lui aussi, hein. Appelle les pimpons.
Appelez les pimpons. Ouais, même ça, c'est... J'ai pas des histoires de ouf, moi, à raconter sur mes sons, parce que c'est vraiment toujours... C'est l'instru qui me parle.
D'accord.
J'ai pas de secret.
Ouais.
Enfin, j'ai pas de technique ou quoi. C'est vraiment moi et la prod, on match et on fait un truc.
Est-ce que maintenant, tu es un homme, jeune homme, déterminé, ouais, et qui ne doute plus de rien?
Ouais, je suis confiant à 1000%.
Ouais.
Sur ce que je fais.
Ton ambition, voilà, c'est toujours prêt à tout prendre sur mon passage?
Ouais.
C'est vrai?
Toujours.
Alors je vais te faire une interview, prêt à tout prendre sur ton passage.
C'est parti.
Ah non, mais je t'ai pas fait la première fois, mais je te fais ça. Non, maintenant ça va aller très vite. Es-tu prêt, justement, puisqu'on est dans des temps très de crispation, de violence politique, de racisme qui s'exprime à la télévision, et pas forcément chez des gens estampillés racistes, mais quand même, es-tu prêt à occuper un poste important en France, afin de promouvoir la culture hip-hop, les jeunes laissés pour compte, justement, de ce pays? Si Marine Le Pen devient présidente de la République?
Non. Je préfère le faire moi-même de mon côté sans pour autant être affilié
à ces gens-là.
Voilà.
Bon. Es-tu prêt à prendre le risque d'élever un enfant qui n'est pas le tien? Tu sais que ce n'est pas le tien, mais on t'a fait croire que c'était le tien.
Ah,
es-tu prêt à le prendre sur ton passage et l'emmener ailleurs?
Non, je pense pas.
Tu peux pas assumer ça?
C'est dans le sens où... Moi, je conseille à tout être humain sur Terre de ne pas accepter la tromperie. Donc, si ça devait m'arriver... Ben,
Je sais que tu rêves de Merco pour maman.
Ouais. Yes.
Là, aujourd'hui, allez, on se dit que tu as les moyens, dans l'esprit de tout le monde, tu as les moyens de t'en payer 10 des Merco. Mais imagine que tu ne sois pas dans cette situation-là. T'as pas les moyens. Là, tu vois la dernière AMG GT de chez Mercedes. Elle est là. Il y a les clés sur le truc. Tu sais que c'est pas ta voiture. Tu te dis c'est juste mon rêve. Est-ce que sur ton passage, tu la prends et tu vas faire un tour?
Non. Ah non, t'es technique. Ben non. Non. Il y a 5 ans, je t'aurais peut-être dit oui.
Ouais.
Ouais, mais non.
C'est fini.
Je me dis autant aller au sud et travailler.
Et continuer à
pour
bosser.
Pour avoir cette vie-là.
Ouais.
Voilà.
Toujours. Écoute, c'est clair. Es-tu prêt, puisque tu es prêt à tout prendre sur ton passage? Remarque, à chaque fois, tu dis non. Regarde, remarque bien. Es-tu prêt à monter, par exemple, dans un vaisseau expérimental pour aller dans l'espace très loin? On te dit, on n'est pas sûr, c'est le premier essai. Es-tu prêt à tout prendre sur ton passage? Prendre ça, accepter cette proposition, parce que ça va être une expérience fabuleuse.
Incroyable.
Es-tu prêt à le faire?
Ben, si je suis sûr de revenir quand même. Parce
non,
que
ben non, t'es pas sûr de revenir, mec.
Ah ouais?
Ben non, c'est expérimental, c'est la première navette du genre.
Ah ouais, non, je crois que je vais laisser ça à des gens un peu plus fous, moi. Ouais.
T'es pas téméraire, hein?
Non, j'ai pas cette folie-là encore.
SDM, on est vraiment très, très, très heureux de te recevoir. Et tu nous fais le plaisir de nous faire entendre l'une des chansons de l'album Ocho, sorti aujourd'hui, je le rappelle, et c'est l'un de nos coups de cœur, parce qu'au départ tu voulais nous faire une autre chanson, puis tu as changé, c'est pas nous qui t'avons obligé, c'est toi qui as changé, et cette chanson-là, c'est un de nos coups de cœur de l'album, le titre c'est Cello.
C'est ça.
On va te demander d'aller prendre le micro.
C'est parti.
Et pour nous interpréter, allez, vas-y.
Cello.
Yes. SDM est avec nous dans Couleurs Tropicales. Il fait ses premières Couleurs Tropicales et c'est vraiment, vraiment un pur plaisir. Écoute ça.
À l'école, je voulais déjà la vie d'adulte. J'ai tout fait pour me rapprocher de mais j'ai fait le camp. J'ai quitté tôt l'école. Je voulais la vie ta Dolce, mais je me suis perdu dans le check. C'est tout pour la vie, c'est la cosa. Demande à Faya, demande à Cosa. Percuté par la vie, demande à constat. Avenir une test, c'est un conseil. Menace pour la société, ils veulent raser ma cité. J'aime la main sa bouche pour mettre la maman dans un Mercedes. Menace pour la société, ma cité. Nous on a fait le sang dans la zone, mais ici il n'y a rien d'intéressant. L'impression que je suis seul, que la peine a caressé.
Grosso tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait sans raison. On reconnaît la même fraude, on prend sur le cello. Oh, on reconnaît la même fraude, on prend sur le cello. Oh,
sur le cello. La fois de le score du match est scellé. Des frères en son prix, des frères au ciel. Prochain mois à qui j'ai pas dit salut. Bien sûr, attends, pour eux c'est tant pis. J'ai pas su attendre, j'arrive pour les mettre au tapis. Non, plus la vraie, tu fais pêche au vide. Ici tous les jeunes, la main dans la tôle, pas la vraie. Fais le tour de la zone. J'y ai rien trouvé d'intéressant. Reconnais la peur froide, on tourne sur le cello.
Nous on a fait le sale dans la zone. Mais ici, l'impression que je suis seul, que le gain a caressé. Pourtant tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait sans raison. On reconnaît la belle fraude, on prend sur le cello. On reconnaît la belle fraude, on prend sur le cello.
Ocho disponible partout. Ocho.
Ocho, l'album, reste là, reste là. Merci d'avoir été avec nous. Tu as dit, moi j'aime cette chanson-là, t'as vu, c'est quand je te parlais de voiture tout à l'heure, de Merco, ouais. Je faisais évidemment référence à Cello. Et puis tu dis dans le titre, ils veulent raser ma cité. Tu as eu ta cité rasée?
Ben, c'est en cours.
Ouais.
Ils sont en train de reloger.
Ouais.
Plusieurs habitants de la cité pour la raser, donc voilà.
Bah, moi j'ai connu ça, ça m'a fait mal au cœur lorsque j'ai vu que ma cité de Bondy avait été rasée.
Tu vois là où t'as grandi.
Exactement. Moi, en tout cas, toi tu es en train de construire ton édifice. Yes. Et on est très 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 heureux vraiment de t'avoir reçu. Et ce n'est qu'une première fois dans Couleur Tropicale. Et ne reviens pas uniquement pour le deuxième album, mais reviens dès que t'as quelque chose à dire. Ça c'est le plaisir. Et puis moi j'espère que tu vas pouvoir, là, on va pouvoir te permettre de remonter sur scène et d'aller défendre l'album sur scène, parce que c'est ça. La vérité de l'artiste.
Vraiment, c'est ça. C'est là où tu peux voir aussi à quoi ressemble ton public.
Ouais.
Donc ouais, ce serait vrai que Monsieur Macron nous libère de ça.
Toi, c'est même pas l'histoire coronavirus qui nous emprisonne, bah, c'est Macron qui nous emprisonne. Si je te dis nègre de maison, l'expression nègre de maison, est-ce que tu connais la racine de ça? Parce que beaucoup se trompent en parlant de nègre de maison, ouais, et insultent nos ancêtres qui étaient esclaves. Mm-hmm. On ne sait pas qui on aurait été, nous, si on avait été à ce moment-là.
Ouais, moi, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de l'entendre.
Ouais.
Mais non, la racine du mot nègre de maison, bon, je ne connais pas.
Eh ben écoute,
même ça si va être le débat d'aujourd'hui.
Exactement.
Fort.
Merci SDM. SDM était dans Couleur Tropicale.
Yes.
Merci beaucoup.
Merci.
À gauche, à droite, débordement.
Couleur Tropicale, talk show. Et c'est le moment de la séquence de la génération consciente et agissante. Cette semaine, avec nous, Dolores Bacchella, journaliste et initiatrice du festival Fresh Woman. Bonne arrivée, Dolores.
Merci.
Également avec nous, Lova Rinel, présidente du CRAN et chercheure en dissuasion nucléaire.
Bonjour à tous.
J'ai pas osé faire le jeu de mots en disant notre thème de cette semaine est un thème explosif.
T'as pu dire atomique, mais ouais.
Atomique, oui. Mais moi, je n'ai pas la bonne terminologie.
C'est ça, voilà,
je ne suis pas le spécialiste. On va aujourd'hui s'attarder sur l'expression nègre de maison, l'emploi de cette expression par des jeunes descendants d'esclaves africains et surtout d'africains des diasporas interpelle. Il met à jour, souvent, vous en conviendrez peut-être, la méconnaissance de l'histoire, de l'esclavage, la violence et les sévices infligés aux déportés, à ces esclaves, et cela de génération en génération. Des femmes et des hommes, des enfants également, qui ne s'appartenaient pas. Ils n'étaient que la propriété du maître, des fonctions rangées dans des catégories, des biens meubles, des êtres humains affublés de termes animaliers, mulâtres, dont la racine est mulet, chabin, croisement contre nature, d'un bouc et d'une brebis, ou d'un bélier et d'une chèvre. Aujourd'hui, pour insulter leurs semblables, de jeunes afros emploient l'expression « nègre de maison ». Ils ont, pour référence,
des films et non une étude approfondie de leur histoire, un pan de l'histoire de l'humanité dont ils ne mesurent pas la férocité et la barbarie. Nous allons justement autopsier à la fois cette expression et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui tant de jeunes l'emploient. Quelle est votre définition de cette expression, Dolores ?
En fait, bon, c'est un terme afro-américain, c'est « house nigger ».
Ouais.
Et donc, je pense que si on prend la manière dont on utilise, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux en vrai,
ouais,
ce terme actuellement, c'est une manière de dire qu'en fait, il y a des personnes noires qui se comporteraient comme des esclaves de maison, puisqu'ils seraient encore enfermés dans la maison d'un 10 mètres, qui est évidemment une personne blanche, et que enfermés dans cette maison du 10 mètres, en fait, se concédant des avantages, ils concèdent en fait au maître le fait qu'ils sont justement des esclaves, et donc faisant ça, ils se départissent de leur identité de personnes qui restent justement dominées, donc esclaves. Quand les personnes utilisent effectivement cette expression qui est très violente de nègre de maison, c'est ce que il me semble que moi j'entends, voilà.
Non, mais on a très bien compris ton explication. Ce qui veut dire que donc on intègre l'idée que nègre de maison soit une insulte.
Exactement.
Et non une catégorie parmi tous les esclaves. On va y venir tout à l'heure. Lovarinel, ta
définition. Il y a deux définitions, mais je pense qu'on est tous d'accord. C'est la définition historique et tu l'as résumée assez bien. Puis la définition contemporaine, utilisée sur les réseaux sociaux en termes d'insultes, qui moi je la résume assez simple en termes de vendu. C'est destiné uniquement aux personnes noires, il faut quand même le dire. Et dès lors qu'en fait une personne noire aurait des propos qui iraient dans le sens, alors aujourd'hui ça va être de la police, ça va être sur un sujet qui parle de racisme et il y aura une prise de position à faire, si en fait ça ne va pas sur une tendance un peu radicale ou considérée comme telle, très stricte, on serait un nègre de maison. Donc ce qui m'embête, c'est déjà qui affuble qui, quelle légitimité, c'est toujours la question d'insulte. On prépare le 10 mai.
Oui.
C'est peut-être le moment aussi de remettre à jour un vocabulaire, des situations, et puis le réactualiser aujourd'hui. Moi, tu sais mon attachement sur l'esclavage contemporain. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on disait, c'est que nous, dans notre mode de consommation, on perpétue l'esclavage aujourd'hui. Donc nous, on serait quoi dans 200 ans? Les gens vont dire quoi de nous? Donc tout ça, moi, je pense qu'il faut avoir un peu d'intelligence et peut-être ramener à la raison et avoir un autre vocable quand on a envie de débattre avec quelqu'un, éviter de commencer par dire « moi, je te juge et je sais que tu es un nègre de maison, à partir de là, le débat est mort ».
Finalement, dans l'emploi qui est fait aujourd'hui de cette expression-là, c'est pour parler d'esclaves, des Amériques et des Caraïbes. On oublie les esclaves de la péninsule arabique. Alors moi, je voudrais revenir faire un parallèle avec la colonisation.
Oui.
Quand on parle de nègres de maison, est-ce qu'on parle des boys qui, durant la colonisation, africains, non, étaient également
juste,
de Dolores.
Lova venait de dire justement que ça n'était réservé qu'aux personnes noires. Mais parce qu'il se trouve que justement, c'est une descendance d'un mot de l'histoire.
Oui.
Donc les personnes, quand elles l'utilisent, je pense qu'elles ont très bien en tête l'aspect historique. On sait qu'un mot, on n'est pas à l'Académie française, hein, c'est pas un mot, une condition figée dans les années 60, et ensuite, ça reste figé, du coup, ce sera un emploi qui serait dévoyé. Non. Ce qui, par contre, est assez frappant, c'est que il y a une violence qui est contenue dans l'idée que, comme tu le disais, les esclaves étaient des biens meubles, et c'est exactement, je pense, ce que veulent faire ressortir les personnes qui utilisent ce terme, avec lesquels on soit, c'est très précis.
Non, mais tous les esclaves étaient des biens meubles,
oui,
pas uniquement une catégorie.
Oui, mais c'est très précis, justement, sur les débats qui ont actuellement lieu, sur la sensibilité particulière, notamment pour les afrodescendants, sur certains sujets. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays où, à un moment donné, il y a un membre d'un syndicat de police qui a parlé de bamboula, en disant c'est pas un mot si grave.
C'est affectueux.
Voilà.
C'est affectueux.
Donc quand on a ce genre de choses-là, cette violence-là, qui est régulière dans les médias, est renvoyée quand il y a des personnes qui, justement, appartiendraient, justement, et connaîtraient cette histoire. Parce qu'il s'agit de ça. Tu parlais d'histoire. Comment pouvez-vous laisser dire ça? Vous êtes... quand ce sont des personnes qui sont elles-mêmes noires et qui vont dans le sens de ces personnes qui peuvent dire bamboula, vous êtes des nègres de maison.
Je veux quand même nuancer parce que sur l'histoire...
C'est pas ce que moi je pense, c'est quand on analyse pourquoi et à quel moment ça surgit, on peut reparler aussi de l'exemple de Pépita, au niveau télévisuel, tant qu'elle n'avait pas pris la parole, et on pourrait parler des manquements très graves de quotidien sur la manière dont ils ont orchestré cette séquence, tant qu'elle n'avait pas pris la parole elle-même, tout le monde était du côté de Pépita, et à partir du moment où elle s'est exprimée mais en disant Patrice Lafont et tout, ouais, c'est ma famille, là, les gens ont exactement aussi dit ça, négresse de maison. Donc, on voit bien que c'est aussi parce que c'est une violence qui est exercée et auquel les gens essayent de répondre.
Alors, je sais pas, excuse-moi, oui, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de sentiment de violence. Je pense que dans ce terme-là, il y a aussi quelque part, tu prends l'exemple de Pépita, elle décrit la manière dont le montage du quotidien s'est fait, et ça, c'est un vrai sujet.
Ça, c'est une vraie violence.
C'est une vraie violence. Mmh. Et se dire qu'elle a dit, mais je me reconnais pas dans ça. Qui sommes-nous pour pouvoir dire à une autre personne qu'elle est légitime ou pas dans sa propre violence? Moi, ça, déjà, c'est la première
perception.
Dans la perception. Ouais. Ensuite, il faut rappeler, parce qu'on parlait d'histoire, c'est quand même un terme qui a été porté par quelqu'un de très, on va dire, symbolique sur la lutte. Oui. Malcolm X, maître de maison, n'est pas arrivé non plus comme ça.
J'allais vous poser la question parce que c'est très
récent. Elle a été formulée.
C'est très récent, en réalité.
Alors qu'avant, c'était peut-être une réflexion sociologique dans un débat académique sur l'histoire de l'esclavage. Ça a été circonscrit dans ce fait-là. Et c'est pour ça qu'on parle pas de l'esclavage oriental, qu'on parle pas ailleurs. C'est parce que, à un moment donné, Malcolm X, pour le nommer, il a vraiment fait la dissociation en mettant une forme de catégorie, en disant, en fait, il y a les vendus, les collabos, peu importe le nom, mais en tout cas, l'esprit est là. Il y a les traîtres à la cause. Il y a une cause. Et il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et ceux qui sont pas d'accord avec lui, en tout cas à ce moment-là, et en fait ils sont des nègres de maison. Ça ne veut pas dire que mon point de vue c'est de jeter par la fenêtre tout le travail de Malcolm X, loin de là, mais sur ce point-là je pense qu'il faut s'interroger sur la violence. C'est un instrument justement pour dénoncer, et c'est vrai que moi je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode.
On est encore là, tous les trois, sur l'idée que nègre de maison est une expression qui a toujours été insultante envers une catégorie. Et tout au long de ce débat, vous allez comprendre les uns et les autres, celles qui nous et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, que finalement, il y a une erreur dans l'histoire commise par certains et qui perdure encore aujourd'hui. Alors, justement, puisque certains jeunes font toujours référence à Malcolm X, au film souvent, parce qu'ils n'ont vu que le film de Malcolm X et ils ne connaissent pas toujours bien l'histoire de Malcolm X, et ils ont vu Django également, eh bien, on va regarder ces deux extraits-là et on en parle juste après.
C'est tant manqué que ça, hein?
Ça, oui, je vous ai réclamé, hein? Ouais, comme le porc réclame sa pâtée, comme le bébé réclame le néné de sa doudou noire. Je vous ai réclamé comme je réclame le gros caillou dans mon soulier. La question, c'est qui c'est, ce nègre sur cet orosse?
Hé, Blanche-Neige, tu veux savoir mon nom ou celui de mon cheval? C'est à moi que tu demandes.
Non mais dis donc, qui tu appelles Blanche-Neige, nègre en sel? Attends un peu que je t'arrache de ta
Steven, restons courtois. Django ici présent est un homme libre.
Il y avait deux types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même.
You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field.
Et là, nous entendons donc un extrait de l'interview originale au cours de laquelle justement Malcolm X a ces deux catégories d'esclaves. Ce qui est totalement faux. Il n'y avait pas deux catégories d'esclaves. Tous ces esclaves-là avaient chacun leur fonction, je le répète. Il y avait l'esclave des champs, il y avait l'esclave de la maison, il y avait l'esclave musicien, il y avait l'esclave de salon, il y avait, donc qui tenait compagnie au maître, et lui, pour le coup, il y avait l'esclave forgeron, il y avait l'esclave charpentier. Lorsque Malcolm X, finalement, dit ça, il est dans une, à mon avis, dans une réelle méconnaissance de cette histoire-là. Et je pense, alors, en disant que il attaque certains de ses contemporains, il a d'ailleurs attaqué Martin Luther King.
Oui. Avant qu'il se réunisse à nouveau et qu'il s'aligne sur le même mode d'action.
Exactement. Ce que je veux dire, que même l'expression qu'il employait aujourd'hui, il l'a dit qu'il ne souhaitait plus employer ce type d'expression-là parce que cette expression divise.
On sait que la politique, en tout cas le discours politique et la harangue à la Malcolm X, c'est aussi là pour créer, presque comme on parlerait des métagores de Booba, c'est-à-dire ça crée un choc. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un contresens complètement historique, mais il est dans une espèce d'opposition pour faire comprendre ce qu'il veut dire. Et effectivement, ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, il y a des gens qui collaborent.
Oui, mais c'est basé sur
qui collaborent. De dire que le nègre de maison et le nègre qui trahit est faux, c'est historiquement. Faux. Oui. Il faut dire à un moment donné que l'emploi de cette expression-là, qui jette l'opprobre sur une catégorie d'esclaves, et c'est faux. Toutes les grandes révoltes d'esclaves ont toujours été menées par des nègres qui savaient lire et écrire.
Oui.
Et s'ils savaient lire et écrire, ce n'était pas des esclaves des champs.
Mmh.
Nat Turner n'était pas un esclave des champs. Sojourner Truth n'était pas d'une esclave des champs. Harriet Tubman non plus. Il y a un film qui vient de lui être consacré. On l'a pas encore vu en France. J'espère que certains verront le film pour comprendre un petit peu. Tout ça, l'ouverture. Louis Delgrès, Ignace, ce n'était pas des esclaves des champs. Mm-hmm. Que l'expression, c'est une erreur. Pour moi, c'est la même erreur que lorsque Christophe Colomb dit qu'il pense arriver en Inde et qu'aujourd'hui encore, on appelle les autochtones des Amériques et des Caraïbes des Indiens. On sait qu'on commet une erreur et on continue. Je suis désolé.
Tout à l'heure, tu parlais effectivement d'une réflexion académique, mais ceux qui parlent, c'est réseaux sociaux.
Non, puis on insulte nos ancêtres.
Encore une fois, c'est ça. Pour pas, non, mais c'était pour non, parce que justement, il y avait deux sujets là-dessus.
Il y avait, on va dire, qu'il y ait une réflexion académique, sociologique, sur le terme de nègre de maison.
Non, c'était pas ce que je disais, c'était sur la question du racisme et le contexte. Attention.
Je comprends. Le reste, c'est d'expliquer le pourquoi de l'emploi de certains.
Exactement.
Mais moi, je voudrais, parce que beaucoup nous regardent et nous écoutent.
C'est une erreur politique. Et c'est une erreur d'indignation. On n'a pas à traiter qui que ce soit de nègre de maison. D'autant plus que, comme tu l'as dit très bien, et je vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais c'est faux, en fait. Le point de départ de réflexion, il faut, si on a un problème politique avec une personne de la communauté noire, une personne noire qui commence à défendre des violences policières, des propos racistes, qu'on le prenne pour ça, mais pas qu'on l'affuble de termes de nègre de maison qui renvoie à une insulte qui est abjecte pour toutes ces personnes qui ont vécu une situation insupportable.
Et surtout, on insulte nos propres ancêtres.
Oui, c'est ça.
Ce que je ne comprends pas, lorsque j'entends cette expression-là prononcée par des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui sont en Afrique, je leur dis, mais y a-t-il une telle méconnaissance de l'histoire de l'esclavage pour oser dire ça? Et sur un continent où, à l'échelle continentale, on ne rend toujours pas hommage aux millions d'Africains déportés vers la péninsule arabique, vers l'océan Indien, vers les Caraïbes et vers les Amériques. Je voudrais qu'ensemble, on écoute une personne qui fait autorité justement sur cette question-là. Cette personne-là, c'est Serge Romana, à l'origine de la marche du 23 mai 1998, le CM98. Et je voudrais qu'on l'écoute justement. Il prend position face à celles et ceux qui emploient l'expression de nègre de maison.
Mais comment peut-on juger aujourd'hui de son confort ce qu'ont fait nos aïeux du temps de l'esclavage? Qui peut mépriser un jeune Africain vendu par les puissants d'Afrique aux Européens, déboussolé par la vente à Ouida, presque devenu fou par la déportation, totalement étourdi par sa nouvelle vente dans les plantations, pour être par le hasard de la vie un nègre de case plutôt que de houx? Franchement, qui a le droit de salir la réputation de la mère qui préférait travailler dans la case du maître pour protéger son enfant? Celui ou ceux qui le font sont des ignorants graves, car ils ne savent même pas qui fut Toussaint Louverture, pourtant nègre de maison et général en chef des révolutionnaires haïtiens. Oui, ce sont des ignorants, car ils n'ont aucune idée des centaines de commandeurs et nègres de maison qui se retournèrent contre leur maître. Tous, qu'ils aient été dans les champs, au moulin, dans les villes, avaient d'abord l'envie de survivre dans un monde où leur vie était de ne pas exister et leur destin était d'être oubliés par leurs descendants. Salir leur mémoire, quelles aient été leurs positions et l'ultime souhait des maîtres. Il se trouve que ce sont certains de leurs enfants qui veulent accomplir ce souhait. Vraiment, l'ignorance est meurtrière.
N'est-il pas temps de faire enfin de la pédagogie sur cette histoire-là ?
Mais bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, évidemment. C'est le propre, en fait, de discuter de cette expression. Oui. Et effectivement qu'il faut de la pédagogie. Et effectivement qu'il faut aussi s'offusquer. Est-ce que vous vous rendez compte, effectivement, que quand vous parlez comme ça, éventuellement, vous parlez de vos propres ancêtres et vous en parlez d'une manière qui est absolument pas historique, etc. Ce serait le moment.
Afros sont les seuls à insulter leurs ancêtres de cette façon-là pour parler de leurs contemporains. Sont les seuls.
On a quand même aussi, il y a des ouvrages, il y a des pièces de théâtre. Il y a quand même
sur
la collaboration, sur Arletty, sur toute par exemple Paris
artistique. Non, c'est pas la même chose.
Sur Pétain.
Non, dans le langage courant.
C'est pas ça. C'est ça. Par exemple, sait bien que dans le ghetto de Varsovie, par exemple, certains juifs ont tenté d'essayer d'améliorer leur quotidien, mais jamais aujourd'hui dans la parole d'une personne dont l'histoire est justement la Shoah, il y a pas d'expression aujourd'hui. Toi, mon sang, qui est de même confession que moi, toi, juif, tu es un juif du ghetto de Varsovie qui serait une insulte.
Mais ça pose en fait toute la question.
C'est ça le truc. Et nous, on est capable de ça.
C'est la question de la pédagogie, je pense que tout le monde est d'accord.
Ouais.
On revient, et je sais, je mets tout le temps sur tapis, mais notre musée d'esclavage, c'est vraiment le moment de le faire.
Oui, mais donc il y a bien une question.
Il y a une question politique, il y a ça. Moi, je suis un peu moins d'accord sur le fait qu'il y a une forme de légitimité. Moi, en fait, je peux pas l'entendre. Serge Romana, c'est ce qu'il dit, avec ses mots, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, paradoxalement, à cette violence, à la cruauté du fait historique. On ne peut pas, aujourd'hui, en 2021, affubler qui que ce soit du terme de nègre de maison, sorti d'un contexte académique et historique Paul attend de l'esclavage. Ce que je veux dire, c'est que ça reste une insulte abjecte et c'est pas acceptable.
C'est pas acceptable. Alors, justement, Dolores a très justement rappelé l'épisode de Pepita, parce que c'est un épisode récent en France, je pense que les uns et les autres ont suivi. Audrey Pulvar également a été insultée, alors par les fachos, pour le coup, et de temps en temps par d'autres. Rachel Kahn, qui en ce moment, avec son ouvrage Racé, en opposition à raciser et à toutes celles et tous ceux qui légitimement demandent plus d'équité dans leur pays, on a le sentiment qu'elle dit arrêtez de vous victimiser.
Et qui elle-même insulte aussi parfois les personnes qui prennent parole.
Exactement, puisqu'elle a insulté Assa Traoré en parlant de sa chevelure, de sa coupe de cheveux. Là aussi, propos abjects. Il y a Abdoulaye Kanté aussi. On écoute.
Abdoulaye Kanté, je suis fonctionnaire de police et je travaille dans les Hauts-de-Seine. Les menaces que je reçois souvent, c'est comment tu peux faire ce métier, on va te crever, on cherche où t'habites, voilà, des trucs comme ça, les nègres de maison, sans compter les insultes racistes.
Il s'est exprimé très souvent sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, en défense de la corporation, enfin de la police, sur les violences policières.
On peut être d'accord ou pas d'accord avec
alors,
lui.
Encore une fois, le principe, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, et d'accord sur d'autres sujets par ailleurs, j'entends moins en fait que la base de réponse c'est nègre de maison.
De leur est, comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, parce qu'il est noir, on emploie une expression devenue une insulte et une insulte inacceptable pour montrer son opposition.
Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même bien marteler. Moi, j'aimerais bien qu'à l'école, justement, on puisse expliquer quels sont ces niveaux de tout le monde ne sait pas, effectivement, et les gens, peut-être, n'ont que Malcolm X, et notamment le film. Ouais. Donc, avant de peut-être faire ces procès-là, d'ailleurs, l'extrait est intéressant puisque ça vient de la télévision de Bernard de la Villardière, qui fait des documentaires, etc. Donc, c'est une télé brute qui se veut anti-brute, etc. Donc, il faut pas oublier que tout ça est très politique. Et l'éducation est politique. Donc quand on aura une éducation sur les esclavages à la hauteur des enjeux qui en fait nous portent, et qu'il y a par ailleurs, et heureusement, ce matin moi j'entendais encore ce qui se passe sur la question du Rwanda, le génocide, on en a encore à demander des comptes à l'État français de reconnaître et de faire un discours d'excuses. Donc quand on en sera...
Et forcément d'apaisement.
Mais les victimes, les survivants, eux sont encore dans cette idée que la France a largement participé, qu'elle ne reconnaît pas. Il y avait un historien qui suppliait le président actuel de faire ce discours d'excuses. Quand on en sera là, on pourra effectivement se dire qu'un monsieur comme Abdoulaye Kanté, avec lequel on peut ne pas du tout, et c'est mon cas, être d'accord sur bon nombre de ses prises de position, on pourra se dire que ça se sera évacué. Pour moi, c'est un stigmate du manque d'investissement sur cette question qui est essentielle, mais sur laquelle tout le monde ne se sent malheureusement pas assez concerné.
On prend le parallèle très vite, sur la mémoire,
alors, je suis moins sûre que ce soit un manque d'investissement que déjà de prise de position de fond. Parce qu'en fait, tu le dis très bien, l'histoire, c'est les académiciens et les chercheurs, la mémoire, c'est politique. Et force est de constater...
Et ça se commue. Hein.
Voilà. Oui, on parle du Rwanda, mais il y a le bicentenaire de Napoléon qui est derrière aussi cette question de l'esclavage. On voit bien qu'il y a deux niveaux. Le président va arriver, on attend de savoir ce qu'il va dire.
Pourtant, les expositions ne manquent pas sur Napoléon. Mais ça, est-ce qu'on met ça en avant, le fait qu'il y ait l'abolition
C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure, pour renuancer le propos sur l'éducation...
Quand la volonté politique
n'est pas au rendez-vous de la réalité historique, on peut faire ce qu'on veut.
Vous avez raison. Voilà, l'un ne va, me semble-t-il, ne va
c'est
pas
impossible.
Sans je voudrais juste vous poser une dernière question. Faut-il dire aux uns et aux autres d'arrêter d'employer l'expression de nègre de maison parce qu'elle renvoie à une insulte à la mémoire de celles et ceux qui furent victimes d'un crime contre l'humanité?
Oui, il faut arrêter.
Moi, je leur demande d'y penser et je demande aussi aux personnes qui laissent faire ça de prendre aussi leur disposition assez rapidement. Et je suis pas sûre que ça profite à ceux qui utilisent ce terme-là.
Ouais. On va se quitter avec une chanson de Tania Saint-Val. Le titre, c'est « Tous ces hommes ». Elle raconte justement le combat de Louis Delgrès, d'Ignace, de Solitude, qui ont refusé en 1802 le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, voulu par Napoléon Bonaparte. Et c'est le sacrifice de ces gens qui étaient des nègres de maison. Merci, Lova Rinel.
Merci Claudie, merci Dolores.
Merci.
Là, il a cassé le moteur, c'est fini.